J'enregistra la souffleuse. Au temps où je jouais les grands premiers rôles au casino de Coqueville-les-Bains, nous raconta le vieux Lapaume, notre troupe avait l'honneur de posséder un souffleur qui était une souffleuse. Sophie, ainsi se nommait-elle, avait double titre à trouver un emploi au théâtre, car elle était l'épouse légitime de Pruard, le second régisseur, et la maîtresse officielle de Cajol, le troisième comique. Mais elle était laide comme un pout-guenon, et si mal bâtie qu'on ne pouvait songer à la coller sur la scène, fût-ce pour jouer en travesti les vieillards contrefaits. On l'avait donc installée dans la boîte du souffleur, et je dois dire qu'elle s'acquittait très bien de sa tâche. Elle avait du tact, de la bonne volonté, et nous eussions eu qu'à nous louer d'elle si Sophie n'avait été sujette à d'étranges crises qui la privaient de tous ses moyens. Presque chaque soir, notre souffleuse soufflait comme le dieu Boré lui-même pendant deux ou trois actes. Puis soudain, ce qui avait le malheur d'entrer en scène au moment de sa crise se trouvait complètement privé de son indispensable secours. Il avait beau s'approcher de la rampe, tiquer de l'œil, de la bouche, répéter les appels de pied les plus pressants, les plus impérieux, Sophie bafouillait, tournait les pages trois fois à l'une, envoyait avec une déplorable instance des répliques supprimées, puis n'envoyait vraiment à la fin plus simplement rien. Sophie avait sa crise et montrait, dans un visage rougi comme une tomate, ses petits yeux ardents, chavirés par on ne sait quelle souffrance. Elle se mordait les lèvres, poussait de gros soupirs, et sa tête carambolait dans la boîte comme une pomme située dans une caisse à cigares. Puis la crise s'apaisait comme elle était venue, et la souffleuse recommençait à souffler comme un ange. Réprimandée, interrogée, Sophie avait rougi, balbutié, puis parler en termes vagues de douleurs indécises, imprécises, qu'elle ressentait en des endroits mal définis. Ce n'était pas d'une clarté fulgurante, mais on ne peut rien en tirer d'autre. Et on se promit d'ouvrir l'œil. On remarqua d'abord que les crises se produisaient toujours à des moments où Cajol, son amant, n'était pas en scène. Puis un soir, quelqu'un aperçut le troisième comique, alors qu'il croyait ne pas être vu, enfilant l'échelle qui conduisait dans le fond de ce gouffre, la cale qu'il partageait avec la scène, comme Cajol avec Bruard, les charmes de la vieille jeune belle Sophie. 5 minutes plus tard, la souffleuse piquait sa crise et les artistes barbotaient de tout leur cœur dans le maquis des dangereuses improvisations. On établit une surveillance étroite et bientôt, il fut démontré, clair comme le jour, que tous les soirs, quand ce rôle lui laissait le temps, Cajol descendait sous la scène, dans les ténèbres du fond de cale, et c'est alors que se produisait la crise de Sophie, inévitablement. Il faut vous dire que le casino de Coqueville était à cette époque un fameux petit théâtre où l'on montait beaucoup plus de bateaux que de pièces. On était libre comme l'air. Le directeur ne s'occupait jamais de son théâtre. Il avait passé ses jours et ses nuits à courir après d'insaisissables bailleurs de fonds, à essayer d'être pour les huissiers ce que les bailleurs de fonds étaient pour lui. Quant au régisseur, il s'enfermait dans son bureau pendant toute la soirée pour y combiner des martingales qu'il essayait à la salle de jeu après la représentation. Et si quelqu'un allait interrompre ses calculs, pour quelque motif que ce fût, il lui collait inévitablement 100 sous d'amende. Dans ces conditions, vous pensez qu'il avait moyen d'en machiner de bien bonne. Et voici ce qui arriva à Sophie. Après le second entr'acte, alors que Cajol avait déjà mis sa redingote et ceint son écharpe par-dessus, un monsieur se présenta au théâtre et demanda à lui parler. Il venait, ni plus ni moins, lui proposer un magnifique engagement pour Paris de la part d'un directeur qui avait assisté à la représentation de la veille. Entre nous, le monsieur était mon propriétaire. Un brave marchand de parapluies qui n'avait jamais rencontré aucun directeur de théâtre. Mais ça n'empêcha pas Cajol, qui ne se gommait pas à moitié, de s'embarquer avec empressement sur le beau bateau équipé à son intention et d'accepter, pour débattre à l'aise des clauses de l'engagement, le verre que l'autre lui offrit d'aller prendre au café du coin. Pendant ce temps, nous jouions et Sophie soufflait. Mais bien que j'ai vu dans ma vie, au cours de ma carrière, quelques pièces gentiment sabotées, je crois que jamais, nulle part, on a joué aussi mal que nous à la fin de ce soir-là. Songez donc, nous savions tous que Cajol était au café, que mon propriétaire ne le lâcherait sous aucun prétexte avant le moment de son entrée en scène. Et pourtant, nous voyons Sophie piquer sa crise habituelle, ni plus ni moins que les autres soirs. Ah, le public n'applaudissait pas, je vous en réponds. Mais nous en fichions pas mal, car la blague devenait meilleure à mesure que le temps passait. Le quatrième acte tirait à sa fin et Sophie commençait à manifester de l'inquiétude. Elle était secouée de sursauts brusques, comme quand on lance un petit coup de pied à un chien qui ne veut pas s'en aller. Puis son inquiétude grandit. Et tous ceux qui étaient en scène et ne la quittaient pas de l'œil, oui, elle clamait, elle pensait, « Mais l'imbécile, il va rater son entrée !» Cependant, les répliques s'enchaînaient, vaille que vaille, tant et si bien qu'au moment voulu, la porte s'ouvrit et Cajol entra en s'écriant, comme l'exigeait le texte, « Emparez-vous de cet homme !» Ah non, mes enfants, n'essayez pas de vous figurer la tête de Sophie quand elle vit son amant sur la scène. Oh, je n'aurais jamais cru qu'on pouvait ouvrir les yeux si grands que ça. Soudain, elle se cramponna des deux mains à la tablette et nous la vîmes gigoter comme une forcenée, tandis qu'on entendait sous le plateau les anciens décors et les vieilleries qu'on entassait résonner sur les coups de pied qu'elle envoyait furieusement autour d'elle. Ah, sur la scène, nous pouffions tous, sans pouvoir dire un mot. Le traître qu'on voulait arrêter se forçait, il se tordait entre les deux gendarmes. La duègne, pliée en deux, pleurait de grosses larmes de joie, et l'ingénuité avait par la suite qu'elle avait pour les choses plus loin encore. Et devant cette situation, le chef machiniste prit soin de baisser la toile, et bien nous prit, car il nous épargna l'averse de petites bananes d'orange, d'objets hétéroclites dont le public cribla le rideau. Aussitôt qu'il fut sorti de la stupeur où l'avait plongé ce singulier dénouement. Puis deux machinistes allèrent tirer de Sophie de sa boîte où elle avait pris le parti de s'évanouir. Et jamais, jamais plus, on ne l'a vu piquer de crise, jusqu'au jour où à la troupe se dispersa, notre directeur étant décidé à faire faillite. La paume se tut, et l'un de nous lui demanda « Mais Sophie, a-t-elle su qui était descendu à Fontcalle ce soir-là ?»« Jamais !» dit le vieux. « Et tu le savais, toi ?»« Ah, oui, je vais vous le dire, car mon histoire n'a rien d'immoral. » C'était pas l'amant, mais c'était le mari.